Vous écoutez France Culture.
Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Sixième épisode.
Jean Valjean est revenu auprès de Fantine. Alors qu'elle agonise, Javert arrête Jean Valjean. Il s'enfuit avant d'être repris. 1815, retour à Waterloo, où Thénardier sauve l'officier Pontmercy. 1823, Jean Valjean parvient à s'évader du bagne de Toulon. Il arrive à Montfermeil la veille de Noël, afin de retrouver Cosette à l'auberge des Thénardier, comme il l'avait promis à Fantine. La nuit, Cosette, partie chercher de l'eau dans la forêt, rencontre Jean Valjean qui l'aide à porter le seau. Le lendemain, en échange d'argent, il négocie avec les Thénardier et repart avec elle.
Il y a 40 ans, le promeneur solitaire qui s'aventurait jusque vers la barrière d'Italie arrivait à des endroits où l'on eût pu dire que Paris disparaissait. Là, entre deux murs de jardin, on voyait une masure qui n'avait qu'un étage, la maison Gorbeau. Ce fut devant elle que Jean Valjean s'arrêta. Il monta l'escalier portant Cosette. La chambre où il entra était une espèce de galetas assez spacieux. Au fond, il y avait un cabinet avec un lit. Jean Valjean déposa l'enfant. Le lendemain, au point du jour, Jean Valjean était encore près du lit de Cosette et il la regarda se réveiller. Quelque chose de nouveau lui entrait dans l'âme. Il n'avait jamais rien aimé, il était seul au monde. Le cœur de ce vieux forçat était plein de virginité. Tout ce qu'il y avait de passionné et d'affectueux en lui s'éveilla et se précipita vers cet enfant. Pauvre vieux cœur tout neuf. Les premiers jours s'écoulèrent dans cet éblouissement. De son côté, Cosette se mit à aimer ce bonhomme. Elle l'appelait « père » et ne lui savait pas d'autre nom. Il fut le soutien de cet enfant et cet enfant fut son point d'appui. Oh, mystère insondable et divin, déséquilibre de la destinée. Jean Valjean avait la prudence de ne sortir jamais le jour. Tous les soirs, il se promenait quelquefois seul, souvent avec Cosette. La vieille principale locataire, créature rechignée, examinait beaucoup Jean Valjean sans qu'il s'en doutât. Il allait volontiers à Saint-Médard, qui est l'église la plus proche. Il y avait un pauvre auquel il faisait volontiers la charité. Un soir qu'il n'avait pas Cosette avec lui, le mendiant leva brusquement les yeux. Jean Valjean eut un tressaillement. Il rentra profondément troublé. C'est à peine s'il osait s'avouer à lui-même que cette figure qu'il avait cru voir était la figure de Javert. Quelques jours après, il entendit ouvrir puis refermer la porte de la masure. Le pas était lourd et sonnait comme le pas d'un homme. Au point du jour, il fut réveillé par le grincement d'une porte. Il appliqua son œil au trou de la serrure. Quand l'homme arriva à l'escalier, un rayon de lumière le fit saillir comme une silhouette, et Jean Valjean le vit de dos. C'était l'encolure formidable de Javert. À la brune, il descendit et regarda avec attention. Il n'y vit personne. Il remonta et dit à Cosette :
« Viens !»
Il la prit par la main et ils sortirent tous les deux. Il avait tout de suite quitté le boulevard et s'était engagé dans les rues, faisant le plus de lignes brisées qu'il pouvait. Cette manœuvre est propre aux cerfs traqués. Cosette marchait sans faire de questions. Quand 11 heures sonnait à Saint-Étienne-du-Mont, il traversait la rue de Pontoise devant le bureau de police. Quelques instants après, l'instinct dont nous parlions fit qu'il se retourna. Il vit distinctement 3 hommes qui le suivaient.
« Viens, Cosette !»
Il se hâta de quitter la rue de Pontoise et s'enfonça dans la rue des Postes. Il gagna le pont d'Austerlitz. Une grosse charrette passait la Seine. Cela lui fut utile. Il put traverser tout le pont dans l'ombre de cette charrette. Il regarda en arrière. Quatre ombres venaient d'entrer sur le pont. Cependant, le pas de Cosette ralentissait le pas de Jean Valjean. Il se mit à la porter. Cosette appuyait sa tête sur son épaule et ne disait pas un mot. L'endroit précis où il était parvenu se nommait le Petit Picpus. Les chemins étaient peu pavés. Tout était muraille et solitude. Que faire ? Jean Valjean regarda le ciel avec désespoir. Un bruit sourd et cadencé commença à se faire entendre. Il voyait briller les baïonnettes. Cela venait vers lui. Son regard rencontra la potence du réverbère du cul-de-sac Genrot. À cette époque, à la nuit tombante, on allumait les réverbères au moyen d'une corde qui s'ajustait dans la rainure. Jean Valjean, d'un bond, entra dans le cul-de-sac, fit sauter le pêne de la petite armoire avec la pointe de son couteau, et un instant après, il était revenu près de Cosette. Il avait une corde. Il défit sa cravate, la passa autour du corps de Cosette.
Adosse-toi au mur. Ne dis pas un mot et n'aie pas peur.
Et elle se sentit enlevée de terre. Jean Valjean la mit sur son dos et rampa sur le haut du mur.
Fouillez le cul-de-sac. La rue droit mur est gardée, la rue Picpus aussi.
Jean Valjean se laissa glisser le long d'un toit tout en soutenant Cosette et sauta à terre. Il se trouvait dans une espèce de jardin fort vaste. Cosette tremblait et se serrait contre lui. On entendait le bruit tumultueux de la patrouille. Au bout d'un quart d'heure, il sembla que cette espèce de grondement orageux commençait à s'éloigner. Tout à coup, au milieu de ce calme profond, un nouveau bruit s'éleva, un bruit céleste. Un hymne qui sortait des ténèbres, des voix de femmes. On eût dit un cœur d'ange. Cosette et Jean Valjean tombèrent à genoux. Le chant s'éteignit, tout était retombé dans le silence.
As-tu envie de dormir ?
J'ai bien froid.
Jean Valjean ôta sa redingote et en enveloppa Cosette. L'enfant avait posé sa tête sur une pierre et s'était endormi. Cependant, à travers la rêverie où il était tombé, il entendait un bruit singulier comme un grelot qu'on agitait. Il vit qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. Il paraissait évident que le grelot était attaché à lui. Jean Valjean toucha les mains de Cosette.
Mon Dieu.
Elles étaient glacées.
Cosette, serait-elle morte ?
Il marcha droit à l'homme qu'il apercevait dans le jardin.
100 francs à gagner si vous me donnez asile pour cette nuit.
C'est vous, Père Madeleine ? Par où êtes-vous entré ? Vous tombez donc du ciel ?
Et comme vous voilà fait, vous n'avez pas de cravate, pas de chapeau.
Mais qui êtes-vous ?
Pardieu, voilà qui est fort. Je suis celui que vous avez fait placer ici. Vous ne me reconnaissez pas ? Vous m'avez sauvé la vie.
Ah, c'est vous, Fauchelevent. Oui, je vous reconnais. Et qu'est-ce que c'est que cette sonnette que vous avez au genou ?
C'est pour qu'on m'évite. Il n'y a que des femmes dans cette maison-ci. Beaucoup de jeunes filles. Il paraît que je serais dangereux à rencontrer.
Qu'est-ce que c'est que cette maison-ci ?
Vous m'y avez fait placer jardinier. Eh bien, c'est le couvent du Petit Picpus, donc.
Ah, ce serait une bénédiction si je pouvais vous rendre un peu cela, monsieur le maire.
Disposez du vieux bonhomme. J'ai une baraque isolée, là, dans un recoin que personne ne voit.
Ah bien. Maintenant, je vous demande deux choses. Vous ne direz à personne ce que vous savez de moi, et vous ne chercherez pas à en savoir davantage. À présent, venez avec moi. Nous allons chercher l'enfant.
Ah, il y a un enfant ?
Moins d'une demi-heure après, Cosette, redevenue rose à la flamme d'un bon feu, dormait dans le lit du vieux jardinier. Au point du jour, ayant énormément songé, le père Fauchelevent ouvrit les yeux et vit M. Madeleine qui regardait Cosette dormir.
Maintenant que vous êtes ici, un pas dans le jardin et
Nous sommes flambés. Vous êtes arrivés dans un moment très bon. Je veux dire très mauvais. Il y a une de ces dames fort malade. On dit les prières de 40 heures. Pour aujourd'hui, nous serons tranquilles. Mais je ne réponds pas de demain. Il y a les petites.
Quelles petites ? Je comprends. Il y a des pensionnaires. Ce serait l'éducation de Cosette, toute trouvée. Ce couvent nous sauverait.
La religieuse est morte. Voici le glas. La mère prieure me demande. Ne bougez pas.
Ah, c'est vous, Père Fauvent.
Cette abréviation avait été adoptée dans le couvent. Le bonhomme entama une harangue campagnarde assez diffuse. Il parla de son âge, de ses infirmités, et il finit par aboutir à ceci. Qu'il avait un frère, point jeune, que si on le voulait bien, ce frère pourrait venir loger avec lui, qu'il était un excellent jardinier, et qu'il avait une petite fille, qui s'élèverait en Dieu dans la maison et qui peut-être, qui sait, ferait une religieuse un jour.
Pourriez-vous vous procurer une barre de fer ?
Pourquoi faire ?
Pour servir de levier.
Oui, révérende mère.
Vous connaissez la chapelle. Il s'agit de soulever une pierre.
La pierre qui ferme le caveau ?
Vous savez qu'une mère est morte ce matin. La mère Crucifixion, une bienheureuse. Elle nous a fait ses derniers commandements. Elle sera ensevelie dans le cercueil où elle a couché depuis 20 ans.
J'aurai donc à la clouer dans ce cercueil-là ?
Les quatre mères chantres vous aideront.
À clouer le cercueil ? Je n'ai pas besoin d'elles.
Non. À le descendre dans le caveau.
Mais c'est défendu.
Défendu par les hommes. Ordonné par Dieu.
Si cela venait à se savoir. Révérende mère, si l'agent de la commission de salubrité, l'inspecteur de la préfecture...
Nous avons confiance en vous. Père Fauvent, que fera-t-on de la bière ?
On la portera en terre.
Vide ?
Révérende mère, je mettrai de la terre dans la bière. Cela fera l'effet de quelqu'un.
Vous avez raison. La terre, c'est la même chose que l'homme. Père Fauvent, je suis contente de vous. Demain, après l'enterrement, amenez-moi votre frère. Et dites-lui qu'il m'amène sa fille.
Le lendemain, comme le soleil déclinait, les allants et les venants du boulevard du Maine ôtaient leurs chapeaux au passage d'un corbillard vieux modèle, orné de têtes de mort. Un carrosse drapé où l'on apercevait un prêtre en surplis et un enfant de cœur en calotte rouge suivait. Derrière venait un vieux homme en habit d'ouvrier qui boitait. Ce cortège se dirigeait vers le cimetière Vaugirard. Ce cimetière était ce qu'on pourrait appeler un cimetière fané. Il tombait en désuétude. Le soir y était tragique. L'homme boiteux qui suivait le corbillard n'était autre que Fauchelevent. Qui était dans la bière ? Jean Valjean, qui respirait à peu près. Au premier temps d'arrêt, il avait compris qu'on entrait dans le cimetière. Au second temps d'arrêt, il s'était dit...
Voici la fosse.
Qui dominum in terra et pulvere, et vigilabunt, ali in vitam aeternam, ali in oprobium ut videant semper.
De profundis.
Requiem aeternam dona ei domine.
Les voilà qui s'en vont. Je suis seul.
Tout à coup, il entendit sur sa tête un bruit. C'était une pelletée de terre. Un des trous par où il respirait venait de se boucher. Il perdit connaissance.
Il est mort. Père Madeleine ! Pardine, il a étouffé. Monsieur le maire!
Je m'endormais.
Juste, bonne vierge, m'avez-vous fait peur? Sortons vite d'ici!
Une heure après, par la nuit noire, deux hommes et un enfant se présentaient au numéro 62 de la petite rue Picpus. Le portier les introduisit. Ils gagnèrent le parloir. La prieure les attendait.
C'est vous le frère? Comment vous appelez-vous?
Ultime Fauchelevent.
Êtes-vous bon chrétien?
Tout le monde l'est dans la famille.
Cette petite est à vous? Vous êtes son père?
Son grand-père.
Il répond bien.
Jean Valjean n'avait pas prononcé un mot. La prieure regarda Cosette.
Père Fauvent, vous aurez une autre grenouillère avec grelot. Il en faut deux maintenant.
Cosette, en devenant pensionnaire du couvent, dut prendre l'habit des élèves de la maison. Les religieuses n'adoptèrent point ce nom d'ultime. Elles appelèrent Jean Valjean l'autre Fauvent. Une vie très douce recommença pour lui. Il travaillait tout le jour dans le jardin et y était très utile. Il avait été jadis émondeur et se retrouvait volontiers jardinier. On se rappelle qu'il avait toutes sortes de secrets de culture. Il en tira parti. Presque tous les arbres du verger étaient des sauvageons. Il les écussonna et leur fit donner d'excellents fruits. Cosette avait la permission de venir tous les jours passer une heure près de lui. Quand elle entrait dans la masure, elle l'emplissait de paradis. Jean Valjean s'épanouissait et sentait son bonheur s'accroître du bonheur qu'il lui donnait. Car maintenant, elle riait. Sa figure en était même jusqu'à un certain point changée. Le sombre en avait disparu. Le rire, c'est le soleil. Il chasse l'hiver du visage humain. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Cosette grandissait. Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Le gamin de Paris, c'est le nain de la géante. N'exagérons point, ce chérubin du ruisseau a quelquefois une chemise, mais alors il n'en a qu'une. Il a quelquefois un logis et il l'aime, car il y trouve sa mère, mais il préfère la rue parce qu'il y trouve la liberté. Le gamin de Paris, c'est Rabelais petit. Paris seul a cela dans son histoire naturelle. Il y avait de cet enfant-là dans Poquelin, fils des Halles. Il y en avait dans Beaumarchais. Le gamin de Paris est respectueux, ironique, insolent. Et pour tout résumer d'un mot, le gamin est un être qui s'amuse parce qu'il est malheureux. 8 ou 9 ans environ après les événements racontés dans la deuxième partie de cette histoire, on remarquait sur le boulevard du Temple un petit garçon de 11 à 12 ans qui eut assez correctement réalisé cet idéal du gamin. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Pourtant, si abandonné qu'il fût, il arrivait parfois qu'il disait
« Tiens, je vais voir maman. »
Alors il quittait le boulevard, descendait au quai, gagnait les faubourgs, atteignait la Salpêtrière et arrivait où ? Précisément à la masure Gorbeau, que le lecteur connaît. La principale locataire du temps de Jean Valjean était morte et avait été remplacée par une toute pareille. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la masure étaient une famille de 4 personnes, le père, la mère et 2 filles assez grandes, logées dans le même galetas. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Cette famille était la famille du joyeux petit Vanupied. Quand il entrait, on lui demandait
« D'où viens-tu ? »
« De la rue.
Qu'est-ce que tu viens faire ici ?»
Quand il s'en allait, on lui demandait
« Où vas-tu ? »
« Dans la rue. »
Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. La chambre que les Jondrette habitaient était la dernière au bout du couloir. La cellule d'à côté était occupée par un jeune homme très pauvre, qu'on nommait Monsieur Marius. Disons ce que c'était que Monsieur Marius. Il existe encore quelques anciens habitants qui ont gardé le souvenir d'un bonhomme appelé Monsieur Gillenormand, lequel était on ne peut plus vivant en 1831. C'était un vieillard particulier, le vrai bourgeois complet et un peu hautain du XVIIIe siècle. Il demeurait au Marais, rue des Filles du Calvaire, numéro 6. La maison était à lui. Il disait avec autorité
« La Révolution française est un tas de chenapans. J'espère bien que je ne verrai pas deux fois 93. »
Il avait eu deux femmes. De la première, une fille qui était restée fille, et de la seconde, une autre fille, morte vers l'âge de 30 ans, laquelle avait épousé, par amour ou hasard, un soldat qui avait servi dans les armées de la République et de l'Empire, avait eu la croix à Austerlitz et avait été fait colonel à Waterloo.
C'est la honte de ma famille.
Quelqu'un qui aurait passé à cette époque dans la petite ville de Vernon et s'y serait promené sur ce beau pont monumental aurait pu remarquer un homme d'une cinquantaine d'années, voûté, se promenant à peu près tout le jour, une bêche ou une serpe à la main, dans un de ces compartiments entourés de murs qui avoisinent le pont et qui bordent comme une chaîne de terrasses la rive gauche de la Seine. Vers 1817, il habitait le plus étroit enclos et la plus humble des maisons. Le carré de terre qu'il appelait son jardin était célèbre dans la ville pour la beauté des fleurs qu'il y cultivait. Les fleurs étaient son occupation. Quelqu'un qui, dans le même temps, aurait lu les mémoires militaires, le moniteur et les bulletins de la grande armée, aurait pu être frappé d'un nom qui y revient assez souvent, le nom de Georges Pontmercy. On a déjà vu quelque chose de son histoire. Après Waterloo, Pontmercy, tiré, on s'en souvient, du chemin creux d'Ohain, avait réussi à regagner l'armée. Sous l'Empire, entre deux guerres, il avait trouvé le temps d'épouser Mademoiselle Gillenormand. En 1815, Madame Pontmercy était morte, laissant un enfant. L'aïeul avait impérieusement réclamé son petit-fils, déclarant que si on ne le lui donnait pas, il le déshériterait. Le père avait cédé dans l'intérêt du petit, et ne pouvant avoir son enfant, il s'était mis à aimer les fleurs. L'enfant, qui s'appelait Marius, savait qu'il avait un père, mais rien de plus. En 1827, Marius venait d'atteindre ses 17 ans. Comme il rentrait un soir, il vit son grand-père qui tenait une lettre à la main.
« Marius, tu partiras demain pour Vernon. »«
Pourquoi ?»«
Pour voir ton père. Il paraît qu'il est malade. Il te demande. »
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. Sixième épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vilning, Jean Valjean, Corinne Martin, Cosette Enfant, Vincent Schmitt, Javert, Mohamed Rouhabi, Fauchelevent, Pauline Moulaine, la mère prieure, Rémi Goutalier, Gavroche, Hervé Furic, Thénardier, Emmanuel Granger, la Thénardier, Jean-Gabriel Nordman, Monsieur Gillenormand, Clément Bondu, Marius. Et les voix d'Alexandra Marcy de La Porte, David Nathanson et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Levy. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dérété et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe.